With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Au revoir est un podcast consacré au deuil périnatal. Le deuil périnatal, c'est le fait de perdre son bébé durant la grossesse ou quelque temps après sa naissance. Par conséquent, les épisodes de ce programme abordent des questions sensibles et douloureuses. Avec mes invités, nous parlerons notamment de fausses couches, d'interruption médicale de grossesse, de mort in utero ou encore de disparition d'un enfant de quelques jours ou quelques semaines. Assurez-vous de pouvoir écouter les épisodes dans de bonnes conditions. Et surtout n'oubliez pas, dans le mot deuil, il y a certes le D de décès, mais il y a aussi le E d'espoir ou le I qu'on retrouve dans le mot vie. Je vous souhaite une bonne écoute. Olivia, Jade, Zachary, Noé, Ariane, Lina, Suzanne, mais aussi Garance, Alban, Mathilde, Anne, Marie-Clémence ou encore Aurel. Certains et certaines sont encore enfants, certains et certaines sont déjà adultes. Mais ils et elles ont un point en commun, le deuil a touché leur fratrie. Anne et Mathilde étaient petites lorsqu'elles ont été témoins du drame familial. Marie-Clémence, elle, est née après ce bébé, décédé à quelques mois de vie. Lina avait 4 ans lorsqu'elle a dit au revoir à son petit frère Edgar, alors qu'il était encore dans le ventre de sa maman. Garance et Alban ont quant à elles agrandi la famille après le décès de leur grande sœur Louison. Car le deuil périnatal, ça frappe de plein fouet les parents, mais il ne faut pas oublier que ça marque profondément les enfants. Ceux qui étaient déjà nés et ceux qui sont venus après et qui n'ont pas pu connaître ce grand frère ou cette grande sœur. Pour parler de tout ça, je reçois aujourd'hui Solène Ekizian, docteur en psychanalyse et en psychopathologie, psychologue clinicienne et psychothérapeute. Solène est spécialisée dans les questions liées à la périnatalité et elle a accepté de répondre à mes questions à propos de la fratrie face au deuil périnatal afin de vous donner quelques pistes pour amorcer le plus sereinement possible le dialogue avec vos enfants. Dans le premier volet de cette thématique, nous avons parlé ensemble des enfants aînés et nous allons aborder maintenant dans ce second volet la question des enfants nés après le début de ce deuil. Pourquoi leur annoncer qu'il y a eu un bébé avant eux et pourquoi est-ce important de le faire? Tels sont les axes que nous allons maintenant explorer ensemble. Les entretiens d'Au revoir podcast, épisode 7, le deuil périnatal dans les fratries et sorories, comment l'expliquer aux enfants d'après? Bonjour Solène.
Bonjour Sophie.
Alors dans le premier volet, on a parlé des enfants qui ont été les témoins directs d'un deuil périnatal. Là, cette fois-ci, on va parler des enfants qui naissent après. L'enfant qui vient après un deuil périnatal, il n'a pas vécu ce deuil, mais sa naissance, pourtant, elle s'inscrit dans ce contexte. Pourquoi est-ce que c'est important, selon vous, de lui expliquer la situation et de ne pas la taire? Et quels sont les enjeux pour cet enfant?
Moi, je crois que c'est très important d'en parler d'emblée, finalement, parce que c'est son histoire à l'enfant. Il l'a pas vécu, mais d'une certaine manière, il l'a vécu quand même, parce que ça s'inscrit dans son histoire, dans son héritage intergénérationnel, finalement, si je puis dire. Même s'il l'a pas vécu en direct, entre guillemets, c'est quand même dans son histoire.
Alors, à partir de quel âge est-ce qu'on peut en parler, selon vous, et comment introduire les choses? Ce n'est pas une thématique qui est évidente et facile à aborder. Par exemple, est-ce qu'on peut en parler à un tout petit bébé de quelques mois ou est-ce qu'il vaut mieux attendre que l'enfant soit plus grand? Comment est-ce que vous voyez les choses, vous, en tant que psychologue?
Si j'ai un conseil à en donner, c'est d'en parler d'emblée parce que le bébé sait et sent qu'il y a quelque chose. Parce que peut-être que quand le parent va regarder son bébé, il a ses pensées qui sont un petit peu happées dans cet ailleurs, dans ce bébé, d'avant qui n'a pas pu, entre guillemets, arriver jusque-là, de ses souvenirs qui n'ont pas pu se constituer avec le premier bébé. L'idée, c'est de donner des clés et des pistes au bébé, à l'enfant, parce que le rôle de parent, c'est aussi ça, c'est aussi de décoder ce qui se passe finalement dans l'environnement. Et un enfant qui va sentir son parent peut-être triste ou un peu absent, un peu préoccupé ailleurs, il a besoin qu'on lui dise ce qui se passe. Et du coup, vous donniez l'exemple peut-être d'en parler à un bébé de quelques mois. Moi, je crois qu'on peut même peut-être en parler dès la grossesse, quand on sent le bébé bouger. Voilà, je crois qu'il faut vraiment se faire confiance et dire les choses quand on sent que, voilà, peut-être que le parent, à un moment donné, va être happé parce qu'il pense à ce bébé décédé et puis tout d'un coup, hop, il est ramené comme ça à la réalité par quelque chose que fait le bébé que le parent a devant lui ou que la maman sent dans son ventre. Et peut-être que ça peut être justement l'occasion de rebondir et de dire, bah oui, tu sais, là, j'étais un petit peu dans mes pensées parce que je vais t'expliquer. Et hop, ça peut être le moment d'introduire et de dire, bah tu sais, avant que toi tu sois dans mon ventre, il y a eu un premier bébé qui a été dans le ventre de maman, voilà. Et puis finalement après, le fil se tire. Et je crois que c'est finalement la manière aussi de pas en faire un tabou en fait. Si on en parle depuis toujours, finalement ça fait partie de l'histoire et ça fait véritablement partie de l'histoire de la famille.
En fait, ce que vous dites, ça rejoint aussi un peu la problématique des jumeaux. Lorsque l'un des deux bébés décède, c'est une problématique qu'on a abordée dans l'épisode 19, notamment avec Aurèle et César, qui sont nés très grands prématurés. César est décédé au bout de quelques jours, et Aurèle a été mis au courant... Aussitôt, ses parents lui ont expliqué, les soignants lui en ont parlé. En fait, celui qui survit à son frère ou à sa sœur, on l'informe de son histoire, on lui raconte, parce que son histoire à lui ou à elle est intimement liée à celle de ce frère ou de cette sœur avec qui il a partagé énormément de choses dans le ventre de sa maman.
Tout à fait, et je crois que c'est vraiment très important de, encore une fois, finalement, de donner des clés et des pistes de compréhension, parce que le bébé jumeau a eu effectivement toute une vie en commun avec ce bébé où il y a eu des mouvements, des échanges, et puis aussi tous les mystères finalement autour des grossesses gémellaires qu'on ne connaît pas. On ne sait pas finalement véritablement quels sont les liens, les échanges on en sait quelque chose, mais on ne sait pas jusque dans quelle mesure ça peut être puissant, intense, voilà. Et je crois que c'est important qu'on puisse leur en dire quelque chose. Et c'est un travail en tant que psychologue, en tant que thérapeute, qu'on peut tout à fait faire, de recevoir un bébé avec ses parents et de lui expliquer que voilà, il y avait le petit frère ou la petite sœur, le jumeau, comme on dit, parce que quand on est dans le ventre de sa maman en même temps, on appelle ça des jumeaux. Et voilà, de l'aider à comprendre un petit peu ce qui se passe, parce que ça doit être effectivement très compliqué pour eux de comprendre.
Il y a un aspect, en fait, que beaucoup de parents craignent, c'est que leur enfant croit qu'il est là pour remplacer le bébé décédé. Il y a beaucoup de parents qui formulent cette crainte, je ne veux pas que mon enfant ait l'impression qu'il soit là pour remplacer ce bébé qui n'est plus là. Bah, justement, comment faire comprendre à l'enfant d'après que ce n'est pas le cas ?
Là, je crois qu'il en va aussi de la sensibilité de chacun, mais on peut expliquer qu'il y a de la place pour tout le monde, dans le cœur d'une maman, d'un papa, dans la tête d'une maman, d'un papa. Et je crois que, alors à la fois pour rassurer un petit peu ses enfants, mais aussi peut-être quand les parents n'ont pas osé en parler tout de suite et que le temps a passé et qu'ils se demandent « mais comment je pourrais en parler ?» Je crois que dans les deux cas, on peut peut-être avoir recours à l'arbre généalogique, construire l'arbre généalogique et puis montrer assez concrètement finalement que il y a de la place pour ce bébé qui est décédé mais qui a quand même existé. Il y a de la place pour l'enfant d'aujourd'hui. Et on peut aussi peut-être s'appuyer sur des photos, peut-être de montrer des photos de la grossesse, de la maman, de la grossesse précédente, de montrer, bah tu vois, la maman, elle était enceinte, c'était en telle année, là, et ton petit frère ou ta petite sœur dans le ventre de maman, et puis là, regarde, ces photos-là, c'est pour toi, voilà. Et c'est, alors, bon, l'arbre généalogique, c'est avec ceux qui sont un peu plus grands, mais les photos, je crois que très tôt, on peut les montrer, les enfants adorent en plus les photos, pour venir rendre un peu concrètes les choses. Et puis, le fait qu'il y ait des photos, des souvenirs comme ça, ça va montrer aussi à l'enfant que, les deux comptent, finalement, les deux ont compté. Pour maman, pour papa, s'ils ont pris la peine de faire des photos, de garder tous ces souvenirs.
Alors oui, effectivement, sans que ce soit forcément des photos de l'enfant décédé, parce que certaines peuvent heurter la sensibilité des enfants. On a souvent des photos de la grossesse, ou si jamais on n'en a pas, ce qui est parfois le cas, parce que ce n'est pas toujours évident d'en avoir en fonction du moment où l'enfant est décédé. Parfois, on peut avoir des photos, mais on ne voit pas le ventre véritablement de la maman, en fonction du terme de la grossesse. On peut songer aussi à d'autres souvenirs que l'on a gardés, par exemple les échographies, qui sont des traces visuelles malgré tout, c'est quelque chose de concret qu'on peut montrer.
Oui, et puis ça peut être aussi, si par exemple l'enfant a une place au cimetière, on peut aller sur la tombe, ou si l'enfant a été incinéré, que les cendres ont été dispersées quelque part, ou alors si les cendres sont entreposées au carré du souvenir, ou des choses comme ça, voilà. C'est important d'essayer de trouver quelque chose d'un petit peu concret, même si c'est pas toujours si évident que ça, comme vous le dites, voilà, sur lequel s'appuyer pour montrer des traces finalement de ce qui s'est passé avant l'enfant.
Parfois, les parents, ils n'ont pas osé parler de l'enfant d'avant à l'enfant d'après, et plusieurs années après, justement, ils ressentent le besoin de le faire. Comment est-ce qu'on peut introduire les choses auprès d'un enfant déjà grand qui n'a aucune connaissance de ce que ses parents ont vécu? On peut se dire qu'il n'est jamais trop tard pour le faire, mais malgré tout, ce n'est pas simple d'aborder le sujet.
Dans ce que vous dites, le parent, à un moment donné, peut-être va ressentir le besoin d'en parler, mais je crois que l'enfant a aussi besoin de l'entendre. Parce que même si ça n'a pas été dit, même s'il y a eu un non-dit comme ça au milieu, l'enfant, sans le savoir, a senti des choses. Il a senti forcément qu'à certains moments, son parent était absorbé ailleurs, était triste, peut-être pleurait aussi devant lui. Et c'est finalement venir mettre du sens dans l'après-coup, mais c'est pas grave. Et je suis tout à fait d'accord. Il est jamais trop tard. Il est jamais trop tard, vraiment. Donc on peut, comme on l'a dit, avoir recours à l'arbre généalogique, on peut essayer de montrer des photos, ou on peut aussi aller consulter un thérapeute en expliquant, en disant très humblement, et je crois que c'est tout à fait entendable, en disant, ben voilà, il s'est passé ça dans notre histoire et on n'a pas réussi à en parler. Aujourd'hui, on pense que ce serait bien de le dire, mais on ne sait pas comment le dire. Et voilà. Et par rapport à ça, je crois qu'il faut aussi vraiment s'autoriser à éventuellement contacter différents psychologues. Si avec un psychologue, on sent qu'en face, c'est pas entendu comme on aimerait que ce soit entendu, ben, je crois que c'est pas grave. On a le droit aussi d'essayer d'aller trouver quelqu'un d'autre, voilà, pour que ça puisse être amené à l'enfant de la manière comment dire, que ce soit un peu en adéquation, en cohérence avec leur manière d'envisager les choses. Et c'est tout à fait entendable que ce soit difficile d'en parler. Quand ça fait des années qu'on n'en a pas parlé, voilà, on ne sait pas par où commencer, comment dire, il n'y a aucune honte, vraiment.
Alors, il y a un aspect qui me revient, qui est davantage lié aux grossesses qui sont consécutives à un deuil périnatal. Ce sont en général des grossesses qui sont extrêmement anxiogènes. Et je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui, d'une certaine manière, culpabilisent de ne pas réussir à se projeter, à s'attacher à l'enfant qu'elles portent. Il y a aussi des échéances qui sont dures à vivre, des dates qui se superposent parfois. Par exemple, on peut avoir une échographie importante qui arrive à une date à laquelle on avait une échographie importante plusieurs mois avant pour la grossesse précédente. Ça amène parfois un peu de confusion aussi. Et finalement, chez certaines femmes, il y a la peur que cette expérience de la grossesse, d'une grossesse anxiogène, entache d'une certaine manière la relation à l'enfant à naître. Est-ce que vous auriez quelques éléments à apporter à ces mamans pour qu'elles ne culpabilisent pas trop ?
Moi, je crois que de toute façon, l'idée qu'on pourrait avoir une grossesse sans angoisse, sans tristesse, sans colère, c'est une illusion. C'est pas possible. Donc, C'est vrai que dans le cas du deuil périnatal, bien sûr, c'est une tristesse, une douleur et peut-être des inquiétudes et des angoisses d'une autre dimension, bien sûr. Mais je crois que moi en tout cas, c'est dans ce sens-là que je présente les choses quand j'accompagne des parents ou des mères, quand il y a une grossesse qui fait suite à un deuil périnatal, sur le fait que c'est normal. Il y a quelque chose de très vrai aussi dans ce que vous disiez, c'est les dates, les échéances qui vont peut-être venir faire écho, et peut-être aussi des fois une certaine confusion finalement. Il y a des fois des femmes qui disent « mais j'arrive plus à savoir, c'est la grossesse de qui, qu'est-ce qui se passe, ça vient se superposer ». Donc moi je crois qu'il faut vraiment s'autoriser à aller consulter un psychologue spécialisé en périnatalité. Je précise spécialisé en périnatalité parce que je crois que le deuil périnatal, c'est quand même quelque chose de très particulier. C'est pas le même deuil que les autres. Ça mérite vraiment de s'adresser à quelqu'un qui connaît un petit peu ça, qui s'est formé spécifiquement, qui a l'habitude de recevoir des personnes dans ce contexte. Et moi, c'est comme ça que je propose les choses aux personnes que j'accompagne. Bon, on va se voir très régulièrement. On va travailler ensemble pendant cette grossesse pour vous aider finalement à passer un petit peu les étapes les unes après les autres, parce que c'est ce que décrivent beaucoup les parents, les mamans, de dire, quand je serai à cette étape, il y aura quelque chose qui sera passé. Puis quand on est à cette étape-là, bon, après, qu'est-ce que c'est ? Bon, l'étape d'après, c'est ça. Puis petit à petit, on avance. Et moi, ce que je propose de manière assez transparente, finalement, dès le début, c'est de dire, on va expliquer aussi les choses à ce bébé. Donc, si la maman se sent, elle peut en parler quand elle le souhaite à son bébé in utero. C'est pas si facile que ça. Bon, on va expliquer. Quand le bébé sera là, moi, je recevrai les parents, le bébé, et puis on expliquera. On va expliquer au bébé, avec des mots simples. Et c'est vrai que c'est très difficile pour les parents d'être dans ce discours-là. Et c'est aussi notre métier en tant que psychologue spécialisé en périnatalité de prendre ce rôle et d'expliquer au bébé son histoire de l'extérieur et de lui dire, tu sais, pendant la grossesse, ton papa, ta maman, ils sont venus me voir. On a beaucoup discuté, on a beaucoup travaillé ensemble parce que ce qui s'est passé avant ta naissance. Tu as un petit frère, une petite sœur, qui est ce qu'on appelle mort. Et puis on fait un peu le roman, on lui raconte son histoire à cet enfant parce que, encore une fois, même si ça s'est passé avant qu'il arrive, c'était déjà son histoire.
Alors, dans le premier volet, consacré aux fratries et aux sorories, on a bien compris que les frères et sœurs aînés traversent un deuil. Mais qu'est-ce qu'il en est des enfants d'après ? D'une certaine manière, j'imagine que l'enfant, s'il est au courant très rapidement de cette histoire dans laquelle il s'inscrit, il va arriver à un moment donné, à un âge où il va peut-être ressentir une sorte de manque, peut-être qu'il va souffrir de cette absence. Alors, est-ce que l'enfant d'après, à ce moment-là, il va traverser ce qu'on appelle aussi un deuil ? Est-ce qu'il y a des pistes pour l'accompagner au mieux ? Par exemple, participer à des rituels ?
C'est très important de mettre toutes ces choses-là à sa portée, mais sans le forcer. C'est-à-dire de vraiment lui laisser le choix d'avoir envie de venir ou pas au cimetière, de voir peut-être un doudou qui a appartenu au grand frère ou à la grande sœur ou pas. Voilà, de vraiment le laisser libre là-dessus et peut-être le proposer aussi à différentes étapes de sa vie, parce que l'enfant lui-même, il va construire et il n'en sera pas au même point à chaque fois. Et par rapport à la question du deuil, on parle de deuil que s'il y a un investissement préalable. Donc finalement, cette question, il n'y a pas de réponse unique. C'est-à-dire que ça va dépendre finalement de chaque enfant. Et ça va dépendre aussi, je crois, de la place de l'enfant dans la fratrie et aussi de est-ce que l'enfant, en dehors de ce bébé décédé, a d'autres frères et sœurs concrètement à la maison avec lui, quoi. Parce que, bien sûr, si un enfant se retrouve enfant unique à la maison, peut-être qu'il va ressentir d'autant plus le manque de ce bébé décédé qu'un enfant qui a d'autres frères et sœurs et puis qui, peut-être va se construire comme ça, finalement. Et je crois que quand on repère des choses comme ça, alors effectivement, on peut proposer à l'enfant tous ces rituels, mais je crois que c'est aussi important de lui montrer qu'on partage éventuellement sa tristesse, sa peine, et peut-être de lui proposer aussi, s'il le souhaite, d'aller voir un psychologue pour pouvoir parler de tout ça, évoquer tout ça. Ça rejoint aussi le fait que toutes ces questions-là, elles sont aussi forcément étroitement liées à où en sont les parents dans leur deuil, parce qu'il est sûr que un parent qui a, voilà, pour lequel il y a des choses qui ont petit à petit un petit peu pu s'inscrire, ce sera pas le même positionnement qu'un parent pour qui c'est encore très 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 compliqué à envisager. Et je crois que quand les parents à un moment donné se retrouvent confrontés finalement à leurs propres limites, mais qui sont tout à fait entendables, voilà, encore une fois, il n'y a aucune culpabilité ou honte à avoir, c'est tout à fait entendable que ce soit difficile pour eux. Il faut vraiment s'autoriser à aller chercher de l'aide à l'extérieur et pas être tout seul pour affronter tout ça.
Bien, merci beaucoup Solène pour tous ces éclairages et pour toutes ces pistes qui ne sont pas exhaustives, mais voilà, j'espère que en tout cas cela permettra aux parents d'être rassurés, de pouvoir aborder ces questions-là avec leurs enfants de manière peut-être un peu plus sereine.
Merci beaucoup Sophie.
Cet entretien touche maintenant à sa fin et je remercie Solène d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Je vous rappelle que Solène Ekizian est docteur en psychanalyse et en psychopathologie, psychologue clinicienne et psychothérapeute. Vous pouvez la retrouver sur son compte Instagram solekizian.psy. Solène l'a dit et je le répète, si vous ne vous sentez pas en mesure d'en parler avec votre ou vos enfants, que les souvenirs sont trop douloureux et que vous êtes submergé par les émotions, ne culpabilisez surtout pas. Vous arriverez peut-être à entamer le dialogue dans quelques temps et dans tous les cas, n'oubliez pas que des psychologues formés à ces questions pourront vous aider à accompagner vos enfants et à les écouter pour qu'ils et elles puissent en parler librement et sans tabou. Par ailleurs, de nombreux livres ont été publiés ces dernières années pour aider au mieux les enfants confrontés à un deuil périnatal dans leur famille. Je vous mets quelques références dans la description de l'épisode. Je suis Sophie de Chivray et j'ai eu le plaisir de réaliser, monter et mixer cet épisode. Alors si vous avez à cœur de soutenir Au Revoir Podcast et d'offrir à mon travail une plus grande visibilité, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et à lui attribuer 5 étoiles sur Apple Podcast. Je vous remercie pour votre écoute et je vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux et notamment sur le compte Instagram Au Revoir.podcast pour découvrir du contenu supplémentaire pour lever le voile sur le deuil périnatal. Je vous dis à très bientôt.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com, code PROGRAM.